Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Bonsoir à tous. RTL Grand Soir, c'est votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir, la Turquie qui s'attaque aux milices kurdes en ce moment et avance ses forces armées vers une frontière délaissée, on le sait, par les Américains. Les premières frappes ont déjà tué 11 personnes, dont 8 civils. L'Allemagne sous le choc après un attentat antisémite à la synagogue de Halle qui a fait 2 morts et 2 blessés. Le suspect vient tout juste d'être arrêté. Dans RTL Grand Soir également, ce témoignage du jeune policier qui a abattu le terroriste Michael Harpon dans la cour même de la préfecture de Paris. Il venait de tuer 4 de ses collègues. Et puis, les interrogations encore et toujours pour nombre d'habitants de Rouen et de sa région. 130 personnes ont déjà décidé de porter plainte après l'incendie de l'usine Lubrizol. L'avocat Nicolas Capron sera notre invité dans 10 minutes. Et puis la météo demain, ce sera visiblement plus calme sur l'ensemble du pays. Alors plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Et tout d'abord, ce témoignage RTL du jeune policier qui a abattu Michael Harpon au sein de la préfecture de police jeudi dernier. C'est un stagiaire de 24 ans qui venait tout juste d'arriver à Paris. Olivier Bois, vous avez pu en savoir plus pour RTL sur l'attitude de ce jeune policier au moment des faits.
Oui, il explique d'abord aux enquêteurs que quand le terroriste passe à l'action, il est alors en surveillance à l'entrée de la préfecture. Une femme arrive vers lui, en larmes, complètement affolée, en criant « Venez vite, il y a un terroriste, il a déjà poignardé plusieurs collègues ». Il se précipite alors dans la cour, il aperçoit Michael Harpon, toujours menaçant, avec son couteau plein de sang à la main. Le jeune policier porte alors son arme longue à l'épaule, adresse plusieurs sommations. Michael Harpon se retourne vers lui, le regarde dans les yeux, un regard vide et déterminé, il semblait possédé. Voilà comment le jeune policier le décrit aux enquêteurs de la crime. Michael Harpon se met alors à marcher doucement, à petits pas vers lui, bras tendus avec son couteau, en le regardant toujours dans les yeux. Le policier lui hurle les sommations à nouveau une dizaine de fois en tout, mais le terroriste ne s'arrête pas. Il s'est rapproché à 5 mètres et c'est quand il se met d'un seul coup à courir que le jeune policier de 24 ans fait feu. Un premier coup qui touche le terroriste au torse, un deuxième au ventre. Michael Harpon s'effondre. Le jeune gardien de la paix vient de mettre fin à l'attentat. Dans son audition, il explique aux enquêteurs qu'il est à ce moment-là très choqué en leur rappelant que jeudi dernier, il n'était policier en service que depuis 6 jours.
Merci Olivier. Olivier Bois, service police justice d'RTL. Et ce jeune homme va être muté, on l'a appris tout à l'heure, les jours prochains, loin de Paris. Au lendemain de l'hommage solennel aux 4 victimes et de la déclaration très forte d'Emmanuel Macron hier pour combattre l'hydre islamiste et appeler à une politique, à une société de vigilance, le préfet de police n'a pas tardé à envoyer une note. Préfet de police de Paris, il l'a envoyé à ses directeurs, Guillaume Chaise, une note que vous avez pu vous procurer pour RTL.
Oui, une note de 2 pages à destination des directeurs de service de la préfecture. Didier Lallement les appelle à signaler immédiatement tout signe d'une possible radicalisation. Et ces signes, le préfet les détaille. Un changement physique, vestimentaire, alimentaire, le refus de serrer la main du personnel féminin, un repli sur soi ou un soudain rejet de l'autorité, de la vie en collectivité. Le préfet indique ensuite la marche à suivre, informer la hiérarchie, puis son bureau qui signalera tout comportement à l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Didier Lallement s'appuie sur l'article L114.1 du Code de la Sécurité Intérieure, un article qui permet de muter et même de radier un agent dont le comportement serait jugé comme radical. Par ailleurs, le préfet a reçu aujourd'hui une délégation de syndicats de police. Il aura confirmé que les procédures de sécurité au sein de la préfecture et dans ses annexes seraient entièrement revues.
Guillaume Chaise, RTL. Concernant l'enquête ce soir, les policiers s'intéressent au rôle qu'aurait pu jouer l'imam de Gonesse, où se rendait régulièrement Michael Harpon. Et une question en suspens, comment cet imam salafiste n'a pas quitté le territoire français alors que la préfecture lui avait ordonné de partir il y a 4 ans? Quant au rassemblement souhaité par quelques habitants de Gonesse, il a été purement et simplement annulé. Enfin, cette toute dernière info RTL et des postes de police dans Paris, des commissariats qui ont reçu des menaces, des coups de téléphone ces dernières heures avec à l'autre bout du fil des enregistrements qui prônent l'apologie de l'État islamique. 22h04 et en Allemagne, une attaque meurtrière aujourd'hui à Halle contre une synagogue en pleine fête juive de Yom Kippour. La fusillade a fait 2 morts et 2 blessés. L'auteur de cet attentat a été arrêté il y a quelques instants. Blandine Millicent, bonsoir. La police le confirme d'ailleurs.
Il s'appelle Stefan B. C'est un Allemand de 27 ans, originaire de la Saxe-Anhalt. Et contrairement aux premières informations diffusées par la police, il aurait agi seul. Le jeune homme a lui-même filmé la fusillade qu'il a provoquée et l'a diffusée en direct direct sur Internet, une séquence de 35 minutes au cours de laquelle il affirme que l'Holocauste n'a jamais existé et que les Juifs sont à l'origine de tous les problèmes. À plusieurs reprises, il profère des insultes racistes. Une attaque antisémite a donc confirmé ce soir le ministre allemand de l'Intérieur, probablement commise par un sympathisant de l'extrême droite. Tout a commencé en fin de matinée. Stéphane B n'arrive pas à pénétrer dans la synagogue de Halle où se trouvent environ 80 personnes pour la fête de Yom Kippour. Le jeune homme fait exploser deux grenades à l'extérieur et tire des coups de feu dans un restaurant turc non loin de là. Il prendra la fuite en voiture et sera arrêté quelques heures plus tard. Un choc profond pour tous les juifs d'Allemagne, estime le président de la communauté juive du pays. Angela Merkel s'est rendue ce soir dans l'une des synagogues de Berlin.
Merci à vous, Blandine. 1100 à RTL, pour RTL à Berlin ce soir. En Tunisie, le candidat à la présidentielle Nabil Karoui est sorti de prison ce soir, et ce 4 jours avant le second tour du scrutin. Des partisans l'ont porté sur leurs épaules avant qu'il ne quitte les lieux en voiture sans faire de déclaration. Toujours à l'étranger, le Brexit, c'est Boris Johnson qui a envoyé son ministre de tutelle à Bruxelles tout à l'heure pour des discussions de la toute dernière chance, au moment où le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, juge très difficile, mais encore possible, de parvenir à un accord. Et puis l'offensive attendue depuis le début de la semaine de l'armée turque face aux milices kurdes stationnées à la frontière a bien débuté cet après-midi après l'annonce du président américain Donald Trump lundi de quitter cette zone de conflit à ses troupes. Après les premiers bombardements, on recense déjà 11 morts, dont 8 civils, suite à cette décision politique du laisser-faire par les Américains. Un à un, aujourd'hui et ce soir, les États condamnent l'action du gouvernement turc à l'image de la France. Reste le cas des prisonniers délaissés par les milices kurdes ce soir, notamment la situation des prisonniers français, Émilie Beaujard.
Oui, car avec le début de l'offensive turque, les Kurdes redéploient leurs forces et sont en train d'alléger leur surveillance des camps et des prisons. Le risque maintenant, c'est que tous ces djihadistes s'enfuient, s'évaporent dans la nature et rejoignent les cellules dormantes de Daesh en Syrie. Et on sait qu'il y en a des centaines. L'autre risque, c'est que ces 450 Français, dont une centaine d'enfants, se retrouvent livrés à leur sort, pris entre deux feux. Dans le camp d'Al-Hol, le plus important, des scènes de panique et d'insurrection ont lieu depuis maintenant 48 heures. Pour l'instant, le Quai d'Orsay reste sur sa ligne, pas de rapatriement. Alors pour Marie Dosé, l'avocate de plusieurs familles en France, cette position est encore plus intenable aujourd'hui.
Que ce soit sur un registre humanitaire ou sécuritaire, on ne peut pas les laisser là-bas, c'est trop dangereux. Et bien voilà ce qui se passe. Ça y est, on est aux portes de la dispersion. Et encore une fois, il semble que le Quai d'Orsay n'ait même pas prévu un plan B. Aujourd'hui, on va repeupler les rangs de l'État islamique et on expose ces enfants à la mort, alors que ce sont des enfants innocents et des victimes de guerre.
Et les forces kurdes demandent aussi à ce que les pays étrangers prennent leurs responsabilités et récupèrent leurs prisonniers, car les Kurdes, eux, ne sont plus en mesure de le faire.
Émilie Beaujard, et puis réunion d'urgence demandée par beaucoup de pays dont la France, réunion d'urgence de l'ONU, demain à huis clos qui va se tenir à New York, et la Turquie annonce à l'instant même le début de la phase terrestre de l'offensive contre les milices kurdes. Il est 22h08.
RTL Grand Soir.
Avec Christophe Paco.
Et dans RTL Grand Soir, on va s'arrêter maintenant sur les questions qui demeurent. Deux semaines, un jour près, après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, des taux de dioxine plus importants que la normale ont été relevés ce matin. Mais selon la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, des taux en dessous de la normale. De quoi rassurer ou pas les habitants de Rouen et de sa région. Alors avec nous ce soir, Maître Capron. Nicolas Capron, vous êtes avocat d'un collectif de plaignants. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
On avance à pas feutrés, étape par étape dans ce dossier, dans cette recherche de toxicité. Maître, est-ce qu'aujourd'hui on y voit un tout petit peu plus clair pour vos clients notamment ?
Bah écoutez, pas vraiment, puisqu'il reste énormément d'interrogations dans ce dossier. À court terme, mais surtout à moyen et long terme. Et je ne sais même pas si aujourd'hui on est capable d'avoir des expertises qui sachent nous dire ce qui se passera dans 10, 15 ou 20 ans.
Parce qu'aujourd'hui, il y a quoi ? Un seul petit capteur vers la commune de Préau, c'est bien cela au nord-ouest de Rouen, alors, qui a pu mesurer ?
Techniquement, je ne saurais pas vous dire quelle est l'ampleur du dispositif qui a été mis en place ou pas. Effectivement, il semblerait que sur la commune de Préau, l'association Atmo Normandie, qui est en charge des analyses, ait relevé des taux de dioxine 4 fois supérieurs à la normale. Il y a quand même de quoi inquiéter quand on sait que la dioxine est un puissant cancérogène.
Même si c'est en dessous des seuils de toxicité habituels ?
Les seuils de toxicité, ça veut tout dire et rien dire. Moi, ce que je vois, c'est que visiblement, on a 4 fois plus de pollution à la dioxine que la normale. Mmh. On a des agriculteurs qui sont toujours dans l'expectative. et des produits qui sont bloqués, il y a quand même de quoi être un minimum inquiet, effectivement.
130 plaintes ont déjà été déposées. Vous gérez combien de cas, vous, maître ?
Aujourd'hui, nous, on a à peu près une trentaine de personnes qui sont intéressées pour déposer plainte. Alors, on a le temps, hein. On a 3 ans pour déposer plainte, donc il n'y a pas urgence.
3 ans.
On avance pas à pas, on veut voir comment les choses tournent pour pouvoir affiner justement le raisonnement.
Mais oui, mais c'est bien de marquer le coup parce qu'après, c'est plus intéressant une fois que le dossier est enregistré, non ?
Alors, nous, à titre personnel, mon associé et moi avons été parmi les premiers, si ce n'est les premiers, à porter plainte dès le vendredi, dès le premier week-end, mais nous avions porté plainte à titre personnel parce que nous avons été les premières victimes du nuage. Et j'ai même des photos de notre cabinet avec le joli nuage noir au-dessus. Dès l'annonce de la catastrophe, nous avions dispensé nos collaborateurs et assistantes de venir le jeudi travailler. On a une photo de prise où on a le nuage qui est juste au-dessus de notre cabinet et mon associé habite dans le sillage du nuage.
Nous sommes maintenant à quasiment 2 semaines. Demain, c'est jeudi, ça fera 15 jours que ce dramatique incendie est arrivé sur vous depuis l'usine Lubrizol de Rouen. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ressentez encore des effets ? Est-ce que même vous, carrément ?
Il y a toujours des odeurs dans Rouen 15 jours après. Alors, on nous dit que l'incident est éteint. Alors, ça donne lieu à beaucoup de commentaires, plus ou moins vrais. J'ai été contacté par des lobbyistes qui nous proposaient leurs services, moi en tant qu'avocat. Il y a toute une espèce de marché parallèle de la fake news qui est en train de se mettre en place. Et c'est vrai que c'est difficile dans ce contexte-là de pouvoir démêler le vrai du faux et de garder raison.
Mais il y a même une sorte d'arnaque en ce moment autour de Rouen. Il faut le rappeler ce soir, c'est important dans RTL, avec de faux relevés, de fausses personnes, des gens qui viennent vous demander des sous pour faire des études chez vous sur la toxicité.
Et c'est ce que je vous dis, moi j'ai été contacté par mail, par téléphone, par des personnes qui se présentaient comme des experts pour nous offrir leurs services à nous en tant qu'avocats.
Qu'est-ce que vous réclamez au final aujourd'hui? On a 3 ans pour porter plainte, vous dites, mais aujourd'hui, c'est toujours cette transparence, on veut savoir au plus vite si on risque quelque chose, si on a subi quelque chose?
Pour moi, la première démarche, c'est une question sanitaire. Il y a une vraie question sanitaire qui se pose, c'est effectivement qu'est-ce que nous respirons aujourd'hui?
Et à cette question, on n'a pas beaucoup de réponses, même si on sent que le gouvernement fait tout, puisqu'on voit que même les ministres vont se déplacer vendredi matin chez vous. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui? C'est quoi? C'est rajouter des capteurs un peu partout pour savoir sur les terres agricoles, dans les rivières et dans les habitations s'il y a encore quelque chose aujourd'hui qui peut être dangereux?
Pour moi, ça, c'est de la responsabilité aujourd'hui de l'État de prendre ses responsabilités, in fine, aux responsables de payer. Principe pollueur-payeur. Aujourd'hui, la responsabilité, elle reste à déterminer sur d'où vient cet incendie. Mais c'est aujourd'hui à l'État d'agir et de prendre en main sérieusement le dossier pour rassurer la population avec des études qui soient réalisées et qui soient conformes aux règles de l'art.
Merci d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir été très clair dans vos demandes et dans les demandes également de ceux qui ont porté plainte à vos côtés. Avec votre cabinet, Nicolas Capron, merci d'avoir été avec nous dans RTL Grand Soir.
Merci à vous.
RTL Grand Soir. Avec Christophe Paco.
Et puis des fissures qui coûtent cher sur le site de construction du futur réacteur nucléaire de Flamanville. Pour réparer, il faut en tout cas commencer une technologie qui s'avère très onéreuse. Plus d'1,5 milliard le coût. Alors la facture pour l'usine, pour l'EPR, s'élève déjà aujourd'hui à plus de 12 milliards, ce qui veut dire que ça fait à peu près 4 fois le devis initial. À 22h13, on va faire les comptes dans le ferroviaire. Plus de 1000 cheminots ont déraillé, 1025 pour être précis, et ils préfèrent quitter la SNCF. Un personnel, Arnaud Touche, qui visiblement a du vague à l'âme sur les rames.
Oui, car en 2017, il n'y avait eu que 763 démissions. Beaucoup de cheminots ont donc purement et simplement quitté l'entreprise l'année dernière. On note aussi une augmentation des ruptures conventionnelles. Elles ont presque doublé depuis 2016, selon nos confrères du Parisien. Les raisons de ces départs sont bien souvent les mêmes. Certains cheminots ne reconnaissent plus leur entreprise aujourd'hui et manquent parfois de perspectives. La direction des ressources humaines confirme que les démissions sont plus nombreuses, mais souhaite également tempérer les choses. Elle explique que le nombre de ces démissions est dans la moyenne des grandes entreprises et que des postes sont à pourvoir, notamment en tant que chaudronnier ou encore mécanicien. Mais pour les syndicats, ces départs pourraient se multiplier avec la fin du statut pour ceux qui seront embauchés à partir du 1er janvier. Ils craignent que le métier ne séduise plus et que les salaires ne soient pas à la hauteur. L'État a également demandé des efforts de productivité à la SNCF.
Arnaud Touche, service économique et social d'RTL. Et puis menace sur le France-Angleterre de rugby samedi matin en Coupe du Monde avec un typhon qui pourrait bien faire déplacer cette rencontre, voire tout simplement l'annuler. Décision demain matin. La météo chez nous, cette fois, c'est plus calme. Bonsoir à vous, Peggy Broche.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Demain, retour d'un temps plus calme, même si c'est vrai, il restera encore quelques averses qui vont s'estomper au fil des heures et qui seront plus faibles. On les retrouvera le matin entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Quelques ondées également entre les Pays de la Loire, le Poitou et les régions centrales. Ailleurs, retour des éclaircies entre la Bretagne, la Normandie et l'Île-de-France, et même plein plein soleil dans le sud-est toute la journée. Mais attention aux fortes rafales de vent entre 70 et 80 km/h jusqu'à 100 km/h même en Corse. Dans l'après-midi, retour d'un ciel variable sur les côtes de la Manche. Encore quelques averses localement le long des frontières nord et sur les régions centrales et ailleurs, de belles éclaircies et même très beaux des Pyrénées à la région PACA. Les températures, elles seront en hausse, 16 à Nancy, 17 à Brest et Lille, 18 à Paris et Clermont-Ferrand, 21 degrés à Toulouse, 24 à Toulon et 25 à Montpellier.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Peggy Broche. Et comment ce soir, Peggy, tiens, et toute la France ne pas saluer le retour en force justement chez nous de Céline Dion. Oui, j'ai retiré un truc à le Valo, vieille charrue. En mois de juillet prochain, il y avait 55 000 places à vendre. Tout est parti en, tenez-vous bien, 9 minutes et toujours aussi fort. Les 6 concerts prévus à la Défense Arena au nord de Paris, pas mal non plus. Hein. Les 200 000 billets sont partis le temps d'un match de foot. 1h30. Allez, dans un instant, le magazine de la Co, justement, on va faire les comptes et on va reparler musique avec nos invités ce soir. Un groupe funk et fun, électro deluxe.
RTL Grand Soir.